ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux ou de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors voilà, les enfants viennent vers Jésus, il les prend sur ses genoux, il leur fait peut-être un câlin, il prie pour eux, il les bénit et déjà, il les aime. Et ça, c'est aussi pour nous, les grands, on peut venir à lui, répondre à son amour, se réjouir de l'espérance si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, cette espérance qu'il nous offre. Et ça, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas du dérisoire, tel que nous allons l'entendre ce matin, mais c'est du solide, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Jésus, c'est le roc sur lequel on peut s'appuyer en tout moment, sur les circonstances. Alors, on va écouter ce petit show, c'est pas de la haute stéréo, alors je vais essayer, comme il n'y a pas de... Je vais essayer de que ça marche. Hein. Ça, c'est celui d'avant. Voilà maintenant le chant de l'histoire que je vous ai raconté. Voilà. Alors bien sûr, ça nous fait penser à celui qu'on appelait grand frère Pierre, quand j'étais jeune, gamin, qui nous entraînait. Et c'était les premiers trucs qu'on faisait pour les enfants, hein, des petits chants. Et c'était ces enfants qui chantaient, Danilo, qu'on connaît aujourd'hui dans les voyages. La fille, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Voilà. Et qui chantait là, quand elle avait 4-5 ans. Voilà. Alors, c'était le moment rétro. Alors, comme je l'ai dit, tout cela, cette affirmation, hein, « Mes yeux un jour verront Jésus », on l'a juste entendu par les enfants, hein, et puis qu'il faut être comme un enfant pour pouvoir pénétrer dans le royaume de Dieu, même si après on nous demande de devenir adulte en Christ. C'est encore un autre chemin, on en a parlé dimanche dernier. Mais dans tout cela, nous savons que notre Seigneur nous aime. Avant de prier... On me signale qu'il n'y a personne pour la garderie. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut faire rendre ce service ce matin. Voilà, je vous laisse ça sur votre cœur. Je vous propose de prier. Seigneur Jésus, merci pour cette journée que tu nous donnes, que tu nous offres. Journée de repos. Journée où tu nous dis, prenez le temps de vous rassembler. Prenez le temps de m'adorer. Prenez le temps de m'écouter. Et Seigneur, nous voulons prendre ce temps, ce matin, avec toi, et nous réjouir, adultes, enfants, car nous savons que ce royaume est pour chacun d'entre nous, si nous acceptons ta présence dans nos cœurs. Alors ce matin, rends-nous attentifs aussi à ce que tu veux nous dire, nous rappeler, et remplis nos cœurs de ta présence. C'est en ton nom que nous prions, Seigneur Jésus, en te priant pour toutes les assemblées, celles de Colonie spécialement, avec Roger Sewell, et celles de la Suisse romande et partout ailleurs qui se réunissent en ton nom, que ton Église, Seigneur, te loue et t'adore ce matin, et reçois les louanges de nos cœurs. Amen. Alors, en parlant louanges, alors je laisse la place à l'équipe de louanges.
Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, Prisca, je ne vois pas les enfants, tu peux reculer un petit peu s'il te plaît, merci. Ça va les enfants, la pleine forme. Vous savez pourquoi on vous raconte tous les dimanches des histoires de la Bible, et puis sur ce qu'il a fait Jésus, etc., etc. Vous savez pourquoi vos parents ils vous emmènent à l'église? Pour se passer le temps, parce que c'est rigolo? Non. Parce que c'est la chose la plus importante de toute la vie. Et puis dans la vie, des fois c'est chouette, des fois c'est difficile, mais en tous les cas, le Seigneur Jésus, il a promis, Dieu, l'Éternel, nous l'a promis, il est avec nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis il nous aime et prend soin de nous. Puis même quand c'est super difficile, parce que dans la vie, des fois, il y a des choses qui sont super difficiles, il est là. Et moi, ça me fait du bien quand je vois à quelle vitesse file le temps. Et puis quand j'ai des difficultés dans ma vie, quand je rencontre des moments de souffrance, ça me fait du bien de me souvenir de cette promesse-là. Et puis on va rester dans le vintage, mais je crois que la Bible, en fait, elle n'est pas vintage, la Bible, elle est vivante. Et puis ce qui était valable il y a des siècles, ben, c'est encore valable là, aujourd'hui, ce matin, pour nous. Je vous invite à vous lever et puis on va chanter un chant que vous connaissez tous par cœur. Dieu, comme t'es bon, merci mon Père dans les cieux, parce que Tu as promis des choses tellement merveilleuses. Tu as promis ton amour pour ton peuple. Tu as promis ta présence parmi nous. C'est par toi que nous existons. C'est par toi que nous vivons. Et puis je veux te dire, oui, vis dans ma vie, parce que tout le reste, c'est tellement secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est que tu sois avec moi. Ce qui compte vraiment, c'est que tu me donnes la vie. Ce qui compte vraiment, c'est que tu m'accompagnes à chaque pas, puis c'est que je chemine vers ta maison, je marche dans tes voies. Je vous invite à vous asseoir un instant, puis je vous invite à réfléchir pourquoi tu es là. Je t'invite à te rappeler de ce moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ou bien je t'invite à considérer combien ça vaut la peine de lui confier ta vie. Je vous propose de prendre 2-3 minutes de prière pour louer notre Seigneur. pour lui dire merci, parce que dans les bons et dans les mauvais jours, il est là, solide comme le roc, fidèle à sa promesse. Béni soit ton nom, Jésus.
Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul est comme toi. Jour après jour, je te louerai. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho. Tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
Le prochain qu'on chante, je t'invite vraiment à le chanter comme une prière. Je t'invite vraiment à le chanter comme s'il était là, parce qu'il est là en fait, pas comme s'il était là, en te souvenant qu'il est là devant toi, en te souvenant que c'est devant le Seigneur Jésus, devant notre Sauveur qu'on se retrouve. Et c'est vraiment un chant qu'il invite dans nos vies.
Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Jésus.
On s'arrêtera là.
Voilà, nous allons avoir le temps d'écoute de notre Seigneur au travers de ce que nous dira Jacques ce matin. Et pour introduire son message, nous avons une lecture à faire que l'on peut afficher. Voilà. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 13. Voici ce que dit l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Oui, vanité des vanités, tout est vanité. On pourrait dire aussi, où tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord, il tourne et tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en mouvement, mais le monde ne change pas. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau. En fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même. Pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après nous n'en auront aucun souvenir. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est une occupation pénible que Dieu impose aux humains. Romains 8, 20 à 21. La création a été soumise à la vanité, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Heureusement qu'il y a le Nouveau Testament.
Merci beaucoup. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous venons d'entendre ta parole, qu'elle soit pour nous non seulement une lumière, mais un guide sûr pour nos vies. Amen. La lecture qui vient d'être faite plombe un petit peu l'atmosphère. On en ressort en disant « Ouh là là, c'est un petit peu pessimiste tout ça ». Le livre de l'Ecclésiaste annonce d'entrée la couleur. Dès la première ligne, dès le premier verset, il appose une thèse assez troublante, il me semble en tout cas à mes yeux, quand il dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Oui, tout est vanité. Ça, c'est la première, c'est le titre du livre de l'Ecclésiaste, c'est le thème principal. Le mot « vanité » va revenir plus de 35 fois dans tout le livre de l'Ecclésiaste. C'est vraiment le mot de cet auteur, vanité. Une autre traduction que j'ai trouvée, qui a trouvé une équivalence, traduit ce refrain ainsi, « Tout est fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. » Et voilà, c'est ce qui vient en tête de ce livre de l'Ecclésiaste, qui est comme le mot d'ordre qui va être développé dans la suite de tous les chapitres de ce livre. Et donc, je vous l'ai dit, on trouve ce mot de vanité plusieurs fois dans l'Écriture. J'en cite deux versets qui sont caractéristiques. J'ai vu, dit l'Ecclésiaste, peut-être une petite parenthèse, l'Ecclésiaste, c'est un mot un peu particulier, ça vient du grec et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, c'est celui qui parle à l'Assemblée. Je préférerais le terme « le sage ». Parce qu'il vient aussi, on le trouve quelquefois utilisé pour parler de cet auteur du livre de l'Ecclésiaste. Ceux qui ont fait de l'hébreu ou qui ont une version de la Tobe sous les yeux vont trouver encore un autre mot, Kohelet. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. Le sage qui a fait des recherches, qui a étudié les choses de la vie. Et voici deux versets caractéristiques, comme je l'ai dit. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil, voici que tout est vanité et poursuite du vent. Un peu plus loin, au chapitre 5, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore là une vanité. Et on pourrait multiplier les exemples dans tous les domaines et tous les aspects de l'existence où ce refrain vient, sa conclusion, c'est toujours tout est vanité. À une certaine époque, dans l'histoire de l'Église catholique romaine, lorsqu'on intronisait un nouveau pape, il était coutume qu'un moine se présente à trois reprises devant ce nouveau pape, devant lui, et pour brûler à ses pieds une mèche d'étoupe. Et lorsque cette mèche était partie en fumée et qu'il ne restait que quelques cendres, il s'adressait au pape en lui disant « Sancte Pater, sic transit gloria mundi, Saint Père, ainsi va la gloire du monde. » Des cendres, tout ce qu'il reste. Et probablement que cette cérémonie était là pour prévenir dans ce nouveau pape qui allait entrer en fonction, toute tentation d'orgueil qui aurait pu lui monter à la tête et lui rappeler que même sa position glorieuse du moment se terminerait en fumée et en cendres. Tout est vanité. Tout est vanité. Alors, est-ce que nous sommes partis en lisant ce que nous venons de lire, en disant ce que je viens de dire, est-ce que nous sommes partis pour faire l'éloge du pessimisme? Parce que c'est un petit peu ça qui ressort dans une première lecture. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que le sage de l'Ecclésiaste n'exagère pas un peu par excès justement de pessimisme? Peut-être qu'il avait passé une mauvaise semaine, que tout était allé de travers, et puis voilà, il a étalé sa bile ou sa mauvaise humeur en voyant tout noir, tout négatif, tout est vanité. Et c'est vrai que si nous prenons les problèmes que nous avons, nous, à notre époque, mais peut-être il n'était pas si différent que ça à l'époque de l'Ecclésiaste, les problèmes que nous avons à affronter dans notre monde, il faut bien reconnaître qu'ils sont graves et inquiétants de bien des manières. Terrorisme, crise des migrants, réchauffement climatique, menace de guerre. Puis on pourrait peut-être prolonger, mais enfin là j'ai cité, avec ça on fait le téléjournal presque tous les jours, hein, avec les quatre titres que je viens de vous présenter. Mais en même temps que, oui, ce sont des réalités là, dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles on baigne, en même temps que tout cela, on ne peut pas nier les nombreux progrès que nous observons dans bien des domaines aussi. Soins médicaux toujours plus sophistiqués, toujours plus efficaces, et de nombreuses maladies dont on mourait inexorablement il y a pas si longtemps que ça en arrière, peuvent être maintenant soignées, guéries, ou en tout cas, les vies peuvent être prolongées de manière significative, n'est-ce pas? La technologie a fait des bons au niveau du progrès dans tous les domaines. Communication. Vous voyez, on est passé. Ça, c'était déjà un grand progrès. Hein, c'était électrique et ça marchait là. Et puis maintenant, on a tout ça dans notre poche avec un iPhone. Et puis c'est encore plus performant que tout ça. On peut communiquer à l'autre bout de la planète pour très très bon marché et se voir sur l'écran de l'ordinateur, parler à voilà, l'autre jour, je parlais avec ma fille qui est à Vancouver, vraiment bien loin d'ici, et comme si elle était là, à côté de chez moi. Des progrès technologiques, et qu'il faut bien reconnaître, sont épatants, non? Oui, hein? Allez, ne soyons pas si pessimistes. C'est quand même dingue. L'agriculture en un siècle. Je regarde les paysans parmi nous. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et je pense que si nos arrière-grands-parents voyaient les machines et les techniques qui sont déployées aujourd'hui, ils se demanderaient sur quelle planète ils sont. Tellement ça a changé. Et souvent, allons, disons-le, en bien, non? Ou bien si vous avez envie de retourner, bêcher comme ça. Hein, c'est sympa pour la poésie, mais dans la pratique... Le confort de nos maisons. Les plus anciens parmi nous se souviennent qu'il fallait traverser souvent la cour pour aller aux toilettes. Non? Puis l'eau chaude, ben, foi, ça, c'était il fallait allumer le feu d'abord et attendre un petit moment que ça se passe, quoi. On a fait des progrès. Et on serait très embêtés de perdre tout ça et de revenir en arrière. Alors franchement, est-ce que l'Ecclésiaste n'exagère pas un peu quand il dit que tout est vanité et puis qu'il rajoute encore qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Eh bien, je ne crois pas qu'il exagère. Ce n'est pas tellement le progrès ou les progrès que le sage cherche à dénoncer. D'ailleurs, il faudrait lire la suite du livre et on verrait que ses réponses sont très nuancées et très intéressantes. Mais ce n'est pas tellement le progrès lui-même qu'il cherche à dénoncer, c'est l'impossibilité pour les hommes en général et aussi pour chacun de nous en particulier de changer fondamentalement la condition humaine. Les progrès les plus extraordinaires qu'on a pu observer ne changent pas fondamentalement la condition humaine. Nous vivons, que cela nous plaise ou non, dans une sorte de monde soumis à un, appelons ça comme ça, à cause du contexte, à un certain pouvoir de la vanité. Nous vivons dans un monde ainsi régi, sous le pouvoir de la vanité. Et ce pouvoir, si nous le résumons avec les termes de l'Ecclésiaste, ce pouvoir est le suivant. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons. Nous pouvons être riches ou pauvres, bien portants ou malades, sages ou stupides, mais nous allons tous inévitablement vers la mort et l'oubli. Vanité des vanités. Et cela, les progrès les plus avancés n'y changent rien. Ça ne change pas notre condition humaine. Ça la prolonge peut-être un petit peu, ça l'améliore un petit peu, mais ça ne la change pas fondamentalement. C'est, c'est ce pouvoir de la vanité est toujours là. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, nous mourons. Quel sens a tout cela ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là, dit l'Ecclésiaste. Quel avantage, alors, et c'est ça la question, quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? C'est au verset 3, cette question est posée. Et c'est la question auquel va s'attacher l'auteur de l'Ecclésiaste tout au long de son livre. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Question redoutable. Question redoutable. Si vous vous la posez à vous-même, cette question, c'est là qu'elle devient redoutable. Alors, on va essayer pendant un petit instant. Hein. Vous n'allez pas donner la réponse, mais vous allez y réfléchir pour vous-même. Quel avantage est-ce que je retire de toute la peine que je me donne dans ce bas monde, sous le soleil ? Alors, je vous invite à y réfléchir un petit instant avec moi, mais je ne vais pas vous donner la réponse. Chacun est appelé à se poser. Vous savez que des fois, on se la pose, cette question. Non ? Mais quand on se la pose et qu'elle nous taraude un peu trop, qu'est-ce qu'on fait ? On allume la radio ou on passe à autre chose parce que c'est un petit peu angoissant. Non ? Il y a quelques années, ou il y a bien des années déjà, hein, mais on est toujours dans le souvenir des choses anciennes. Le chanteur français Maxime Le Forestier avait composé une chanson que beaucoup se rappellent, je vais vous dire les paroles. Un beau matin, on vient au monde, le monde n'en sait rien. Puis on grandit. On recommence la danse de la vie et puis on use nos mains à continuer le chemin qu'avaient commencé nos ancêtres. Je sais qu'un jour va venir où ce chemin va finir. Ce jour viendra bientôt peut-être. Ça sert à quoi tout ça ? Ça sert à quoi tout ça ? Ne me demandez pas de vous suivre. Ça sert à quoi tout ça ? Ça sert à quoi tout ça ? Il nous reste si peu à vivre. Vous vous souvenez de cette chanson ? Ça sert à quoi tout ça ? Ça sert à quoi tout ça ? Non, je m'arrête là parce que je ne vais pas y arriver et puis je n'ai pas la musique. Eh bien, je crois que Maxime Le Forestier, je ne sais pas s'il a lu l'Ecclésiaste, ça ne m'étonnerait pas. En tous les cas, il est dans le droit fil de ce questionnement. Mais quel est le sens de mon existence ? Ça sert à quoi tout ça ? Alors, écoutez... Je vais m'arrêter ici. J'ai fait beaucoup de prédications dans ma vie de pasteur, forcément. Et puis dans beaucoup de prédications, j'essaie d'apporter des réponses. Je ne suis pas sûr que c'est toujours bon, pédagogiquement parlant. C'est des fois bon de rester avec une question. Je vais apporter une réponse tout à l'heure, mais dans un autre moment, dans un autre temps. Je vais conclure mon message un peu plus tard. Mais j'aimerais m'arrêter là. Avec ces questions posées par le sage de l'Ecclésiaste sur le sens de la vie. Quel avantage est-ce que je retire de tout le mal que je me donne sous le soleil ? J'aimerais que nous y pensions parce que la parole de Dieu nous pose cette question, nous demande d'y réfléchir. En attendant de recevoir la réponse que le Seigneur veut nous donner. Alors, voilà, mon message se termine un peu en queue de poisson à cet instant-là, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une suite, tout à l'heure. Amen.
Merci, Jacques. Alors, je devais choisir un chant, je ne savais pas trop ce que tu allais dire, et on va chanter numéro 457, « Mon Seigneur et mon Dieu ».
heureusement qu'il est là. Hein.
On peut laisser le texte du chant. Avant j'entendrai, je veux simplement dire ce qui me touche. En fait, j'ai choisi ce chant sans savoir. Oui, je savais qu'il allait prendre l'Ecclésiaste, mais j'en jouais quelque chose. Pour moi, il y a quand même une réponse simplement dans ce qu'on vient de chanter. Hein. Donc, il est infiniment grand. Et puis, il parcourt la terre. Hein. Il est venu vers nous et il cherche un peuple, il cherche quelqu'un. Il nous dit qu'il nous veut serviteurs avec lui, ouvriers avec lui dans son champ. Alors il cherche quelqu'un qui est d'accord d'entrer dans sa voie, dans son chemin. Et d'ailleurs, le dernier chant, le dernier couplet, je réponds. Me voici mon Dieu, mon Père, mon ami en Jésus-Christ. Je veux accomplir ta volonté et que tes paroles, que par ma bouche, pour tous ceux qui tournent en rond, que par ma bouche, ils puissent sortir du cercle vicieux que l'Ecclésiaste nous présente, cette vanité.
Nous allons nous préparer à prendre ensemble le repas du Seigneur et j'aimerais l'introduire avec la conclusion que j'ai donnée au message que j'avais à cœur de vous apporter. Et cette conclusion, elle n'est pas tirée de l'Ecclésiaste, mais de la deuxième lecture que Paul Robert nous a faite tout à l'heure, tirée du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où il est dit ceci, « La création a été soumise à la vanité. » Et sans aucun doute, l'apôtre Paul avait en tête le message de l'Ecclésiaste, vanité des vanités. La création a été soumise à cette loi de la vanité, avec une espérance, ajoute l'apôtre Paul. Et c'est là qu'il y a un renversement. Et c'est là qu'il y a quelque chose, un élément nouveau, quelque chose qui va changer. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et c'est ce message-là que j'aimerais maintenant faire entendre pour nous faire entrer dans ce temps de Sainte-Cène. La création a été soumise à la vanité, nous dit l'apôtre Paul, ce fameux pouvoir de la vanité dont parlait l'Ecclésiaste. Mais pas Paul, l'apôtre Paul n'en reste pas à ce triste constat. Il ouvre une porte vers l'espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul écrira une autre épître, la première épître, la première lettre aux Corinthiens, où il va parler justement du sens du repas du Seigneur que nous allons maintenant partager ensemble, il aura cette parole qui va dans la même direction, cette direction de l'espérance, d'un changement, de quelque chose de nouveau. Il dit ceci dans le fameux texte que nous allons lire tout à l'heure de l'institution de la Sainte-Cène. Il dit ceci: toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui change notre perspective. Nous ne serons pas toujours sous la loi de la vanité, des choses qui sont futiles. Nous attendons quelque chose de sûr, quelque chose de solide, la venue de notre Seigneur. Nous attendons en effet qu'il vienne nous libérer du pouvoir de la vanité. Amen.
Lisons dans 1 Corinthiens 11 ce texte connu que nous répétons. Essayons de le prendre comme tout neuf. Car moi, Paul, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Seigneur notre Dieu, c'est un privilège pour nous de prolonger ce geste que tu as commencé avec tes disciples dans la chambre haute, en partageant avec eux le pain, le vin, dont nous connaissons, dont nous savons la signification, ton corps donné, ton sang versé, afin de nous libérer, de la vanité, pour nous faire entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Seigneur, c'est ton salut que nous mangeons et que nous buvons, dont nous vivons. C'est ton corps donné, c'est ton sang versé qui est pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle alliance que tu établis avec ton peuple. Seigneur, nous répétons ce geste dimanche après dimanche, et aujourd'hui encore, nous voulons te dire oui, Seigneur, nous t'appartenons, tu nous as rachetés, et nous prenons pour nous ce que tu as fait pour nous, ton corps donné, ton sang versé. Amen.
Amen. Tu en mets deux dans chacun. Merci aux personnes que j'ai demandé de venir donner un petit coup de main pour la Sainte Seine. Et puis, au centre des plateaux, il y a des petits verres roses qui contiennent le jus de raisin. Et je me tiendrai avec la coupe, et tous ceux qui désirent la coupe me feront signe et je vous l'amènerai. Voilà. Car tout est prêt. Ô Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Notre commencement et notre fin sont dans tes mains. Tu es avant, tu es après. Tu es celui qui est mort, mais tu es celui qui est ressuscité. Et nous te remercions pour ce rappel de ce matin, de cette sainte scène que nous avons prise ensemble. De cette nouveauté que chaque dimanche nous voulons proclamer en ton nom. Merci parce que nos destinées, mes destinées, ma destinée est dans ta main. Amen. C'est un peu difficile de faire la transition. Mais voilà, toute chose a une fin dans ce bas monde, notre culte aussi. Et nous arrivons, comme on le fait chaque fois, dans cette nouveauté de l'offrande, parce que peut-être que chaque dimanche, c'est différent ce qu'on y met. Cette nouveauté de l'offrande, et pour ce chant, j'ai choisi le numéro 864, « Je te donne tout ». Il est peut-être facile de glisser un billet dans l'offrande. Il est parfois plus difficile de donner du temps, de sa qualité, de ses dons, de ce que nous avons, de ce qui nous fait, au service les uns des autres, et surtout au service de l'Église de Dieu. Alors c'est dans la joie de ce service, dans la joie du don, que nous pouvons participer à cette offrande, et que nous pouvons chanter « Je te donne tout », sachant que c'est presque impossible pour nous de donner tout. Avec son aide,
je
suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Dimanche dernier, on entendait que la pureté, ça veut dire sans mélange. Que veut dire je te donne tout? Pour moi, je le chante, mais c'est impossible. Là aussi une question, réfléchissons à ça. Que veut dire entrer dans la volonté de Dieu? Que veut dire quand on chante « Je te donne tout » Seigneur, nous comptons sur toi. Tu es celui qui a les réponses à nos questions. Aide-nous à t'entendre, à t'écouter. Aide-moi à me taire aussi pour écouter ce que tu veux nous dire, me dire. Merci pour les biens que tu nous donnes. Merci parce qu'on peut en partager une partie avec tous ceux qui nous sont chers. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est le temps des annonces. Je passe la parole à Michel et ensuite à Armand.
Voilà les annonces de ce dimanche 11 octobre. Alors, le groupe de jeunes, il n'est pas là. Il est à Vaux-Marcus en week-end. Et jeudi 15 octobre, à 19h15, c'est la formation de disciples. Le costume qui est représenté n'est pas obligatoire. Samedi 17 octobre, il y a la récolte pour les paquets de Noël devant le centre commercial, devant la COP. Au centre commercial devant la COP, vous pouvez vous inscrire encore sur le panneau qui est à l'extérieur dans le foyer. Du 17 au 21 octobre, le camp de Caté. Et samedi 24 octobre, un spectacle, Happy Therapy. Il y a des flyers sur le tableau d'affichage. 14h30, mardi 27 octobre, le fil d'argent, ce sera une occasion de faire plus ample connaissance avec Benjamin et Tsitchoun qui partageront leur témoignage. Et vendredi 30 octobre, eh bien, c'est la suite du forum avec la participation de M. Farelli, professeur à Nogent. 7-8 novembre, alors il y a 7-8 novembre, il y a beaucoup de choses le 7-8 novembre. Donc il y a la kermesse œcuménique au forum dans laquelle l'Église tient un stand. Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de Claudie. Et puis également le 8 novembre, il y a la journée de la Fraie à Yverdon. Avec cet orateur, c'est... L'idée, c'est d'avoir une journée particulièrement consacrée au renouvellement des églises et à la démarche vis-à-vis des personnes dimanche 8 novembre. Ah oui, effectivement. Oui. C'est le 8 novembre. Hein. Oui, moi, je lis l'entête. C'est le flyer qui est faux, semble-t-il. Oui, parce que c'est pas Stuart Moore. Hein. C'est le mauvais... On est vraiment dimanche 8 novembre 2015. Hein, ouais, ouais. C'est le mauvais flyer, mais la bonne date. 8 novembre. D'accord. Le culte est néanmoins maintenu ici. Voilà. Et je dois encore vous annoncer, donc, comme l'a dit Paul Robert, le décès de Hugues Jeunecamp, et vous préciser que le service aura lieu au CEPOM à 14h30. À 13h30, pardon. Et vous dire également que est décédé Charlie Cortet, le même jour, d'ailleurs, mercredi passé. Et là, le service aura lieu mardi 13 à 14h30 au temple de Gento. Mais Armand souhaitait rajouter quelques mots sur la personne de Charlie, qui a été aussi le premier pasteur engagé ici à l'église évangélique.
Oui, Charlie Cortet nous a précédés comme missionnaire au Laos. Et puis, ils ont dû rentrer rapidement. Nous leur avons succédé au Laos, quelque part. Et puis, Charlie a été le secrétaire de la mission évangélique pendant de nombreuses années, tout en étant actif à Colovray. Et il a fait partie de cette équipe qui a eu le courage de faire déplacement de Colovray ici à Mérin. Et il a été, au fond, le premier pasteur de cette église des années 63-64 à 1970 à peu près. Et puis de 70 à 85, il a été pasteur à Gento. Et c'est là qu'aura lieu le service funèbre dans cette église qu'il a servi pendant 15 ans. Et ensuite, il a servi quelques années aussi dans les paroisses de la côte jusqu'à sa retraite. Et ils se sont installés à Arzier dans un chalet. Et Charlie est décédé à l'hôpital d'Aubonne et nous l'avons vu il n'y a pas longtemps. Nous avons encore pu échanger avec lui. Et je crois que les dernières semaines ont été difficiles, mais il a été recueilli dans la paix du Seigneur.
Je crois que Armand pourrait prier peut-être en reconnaissance pour tout ce qu'a été Charlie, dans tout ce que tu as rappelé, puis prier pour sa famille. Et puis si tu peux aussi prier pour la consolation pour la famille Jeune Camp.
Oui, Seigneur, nous savons que les années passent et nous passons avec les années. Et nous voulons te remercier pour les années que tu as accordées à Charlie Cortet, une vie qui a été pleine de services et d'engagement. Et maintenant, nous te prions pour les siens, nous te prions pour Marie, son épouse, pour les enfants, petits-enfants. Seigneur, nous te remercions pour ce serviteur qui a marqué aussi notre Église ici. Nous te recommandons cette famille à ta grâce. Et puis nous pensons aussi à la famille Jeune Camp, comme nous l'avons déjà fait. Et nous te prions pour ces deux services de la semaine prochaine. Seigneur, que tu accompagnes les ministres qui seront chargés d'apporter le message de consolation. Nous te remettons cette semaine nouvelle avec ces deux circonstances particulières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci, Armand. Encore une toute petite annonce. J'ai reçu de la mission MIME, mission évangélique indépendante de Madagascar, qui nous ont visité avec M. Margot il y a quelques mois, les dernières nouvelles, MIME Info. Il y en a quelques-uns à disposition sur une des tables dans le hall d'entrée. Alors, servez-vous. Je passe la parole à Jacques.
J'aimerais vous demander de vous lever pour recevoir cette bénédiction que nous aimons tous beaucoup, je crois, qui se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 6. C'était la bénédiction que les sacrificateurs donnaient au peuple d'Israël et à tous ceux qui se rendaient au temple pour apporter leur culte, leur offrande. Et voici ce qu'il leur disait, nous le prenons pour nous. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.